Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Megillah, page 27, DAF Kaf Zayin.
Bonjour à tous, le DAF est clair, Megillah Kaf Zayin. La Gemara se pose une question. Est-ce qu'on peut vendre un Sefer Torah pour en acheter un autre? D'un côté, on n'est pas mal les Bakodesh. D'un autre côté, on n'est pas Moridine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus que ça. Et donc, on a fait le maximum. On ramène une preuve de notre Mishnah, il est marqué que si on a vendu un Sefer Torah, on ne peut pas acheter des Chumashim. Seulement des Chumashim, on ne peut pas, mais un autre Sefer Torah. On comprend qu'on peut. La Gemara, c'est vrai. Si ça a déjà été vendu, c'est ce qu'on aura le droit. La Shaila, c'était est-ce qu'on a le droit de décider de vendre pour cela? La Gemara nous ramène une Braïta. Il est marqué qu'on peut entourer un Sefer Torah avec des tissus de Chumash, on peut entourer des Chumashim avec des tissus de Navi, mais on ne peut pas entourer un Navi avec un tissu de Chumash, et ni un Sefer Torah. On ne peut pas entourer un Chumash avec un tissu de Sefer Torah. Puisqu'on voit qu'on peut entourer un Sefer Torah avec un tissu d'un Chumash, on comprend que c'est seulement le Sefer Torah, le tissu d'un Sefer d'un Chumash qui est permis, c'est-à-dire quelque chose d'un niveau plus bas. Mais quand ils sont à égalité, ça devrait être interdit. Et pourtant, dans la fin de la Braïta, il est marqué bon. Les tissus de Chumashim ne peuvent pas être utilisés pour un Sefer Torah. Les tissus de Sefer Torah ne peuvent pas être utilisés pour un Chumash. Mais si c'était un Sefer Torah, on aurait pu. Donc, de cette Braïta, en vérité, des deux déductions qui se contredisent, il n'y a rien à déduire. La Braïta nous enseigne qu'on peut déposer un Sefer Torah sur un autre Sefer Torah, et on peut même le déposer sur un autre Chumash. On peut déposer un Chumash sur un Navi, mais on ne peut pas déposer un Navi sur un Chumash, ni un Chumash sur un Sefer Torah. Donc, on voit qu'on peut déposer un Sefer Torah sur un Sefer Torah. Donc, leur doucha est égal. Et bien, on dit, Anaha, c'est différent. Le poser, c'est différent, puisqu'on n'a pas le choix. La preuve, c'est que si tu me disais qu'il fallait faire attention, comment est-ce qu'on aurait pu leur faire la griha? Comment est-ce qu'on aurait pu les attacher ensemble? Alors, il y a une page qui est sur l'autre. Forcément, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Donc, c'est-à-dire que quand on n'a pas le choix, il n'y a pas de problème. On a toujours pas conclu. Est-ce qu'on aura le droit de vendre un Sefer Torah pour en acheter un autre? La Marita nous ramène au nom de Rabba Bar Pachana. On n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah Yeshan pour acheter un nouveau Sefer Torah. Donc on voit que c'est interdit. Et on nous dit, mais non, là-bas c'est différent. Là-bas c'est parce qu'on a peur qu'ils ne le rachètent pas au final. Et donc c'est pour ça que c'est interdit. Mais nous, on parle d'un cas où il y a les deux Sefarim qui sont l'un devant l'autre. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas? Et Marita nous ramène au nom de Rabbi Hanan. On n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah que pour étudier la Torah et pour se marier. Donc on voit que pour étudier la Torah, on a le droit. Donc un Sefer Torah pour un autre Sefer Torah, c'est le vrai permis. Peut-être que c'est différent. L'étude, c'est ce qui va l'amener à accomplir, et c'est pour ça qu'il a le droit. Se marier aussi, c'est le but du monde, pour que la terre, le monde soit habité, et donc c'est pour ça que ça serait permis. Mais peut-être que d'acheter un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah, de vendre un Sefer Torah pour avoir acheté un autre Sefer Torah, peut-être que ça serait interdit. Donc la Gemara n'a toujours pas de réponse. On ramène une Braïta où il est marqué qu'il est interdit de vendre un Sefer Torah, même s'il en a plusieurs, et même qu'il n'en a pas besoin. Nous dire Ashbag, non seulement c'est interdit, mais celui qui a vendu un Sefer Torah, même s'il n'a pas de quoi manger, il a vendu un Sefer Torah ou même sa fille en tant qu'esclave, il n'aura pas d'argent, il n'aura pas de bracha dans cet argent. Vechen be motrehen. Il est marqué dans la Mishnah que si on a vendu un tachmish gdusha et qu'on a acheté autre chose depuis Kadosh, même les motrehen, c'est-à-dire la monnaie, elle a ce statut de gdusha. On dit la Gemara, quand est-ce qu'on a dit qu'il y a cette halakha, c'est seulement dans le cas où il y a eu une vente d'un objet Kadosh. Mais si on a récolté de l'argent et au final on n'a pas eu besoin de la totalité, dans le reste de l'argent il n'y a pas de gdusha. Demande à Bayem, il est marqué dans la Braïta, dans quel cas on te dit qu'on ne peut pas acheter, qu'on doit acheter quelque chose de gdusha qui est plus ramoura, seulement chez l'oïtnou, c'est-à-dire s'ils n'ont pas mis de conditions. Mais s'ils ont mis de conditions, ils peuvent même acheter d'ours aussi, à ce qu'on va expliquer plus tard. De quoi on parle? Si tu parles d'un cas où ils ont fait une vente, ben, qu'est-ce que ça change s'ils ont fait la condition ou pas? De toutes les façons, ils ont l'obligation d'acheter quelque chose depuis Kadosh. Là, forcément, on parle qu'on a récolté. Et on voit que seulement s'ils ont fait une condition, alors ils ont le droit d'utiliser l'argent pour autre chose. Mais c'est pas automatique, comme toi, tu as dit. Répond la Gemara, mais maintenant on parle d'un cas où ils ont fait une vente. Et donc, ils ont devait acheter autre chose. Ah, tu me dis quelles conditions ils peuvent mettre? Ce qu'on avait déjà vu précédemment, si ça a été vendu par le conseil municipal et par, avec l'accord de tous les gens de la ville. Donc, dans ce cas-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec cet argent. Abaye a dit à un des Tamidei Chachamim qui était devant la fléchette, est-ce que tu sais c'est quoi d'ours social? Il lui a dit oui, c'est le chevalier de la ville. Abaye a dit, bah, si je comprends qu'une personne qui a une question, il doit poser la question à ceux qui tournent autour des rabbinim parce qu'eux vont entendre forcément la réponse. La Gemara nous enseigne que si jamais des gens se sont déplacés, sont partis dans une autre ville et qu'on les a imposés en tzedaka, ils doivent donner de l'argent. Et après, quand ils rentrent chez eux, ils récupéreront cet argent pour aller nourrir les pauvres de leur ville. On a une Marita qui va dans ce sens. Ils vont donner cet argent et le récupérer en sortant. Par contre, quand ce n'est pas un public, mais c'est une personne qui est partie seule, elle va être imposée avec les gens de la ville et cet argent sera utilisé pour les pauvres de cette ville-là. Ravuna, une fois, a instauré un jeûne. Et Rafrana Bachanelaï et tous les gens de sa ville sont venus chez lui. ils ont donné la tzedaka comme on faisait pendant les jeûnes. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont dit, bon, il faut récupérer l'argent pour donner aux pauvres de notre ville. Il leur a dit, Avuna, non, tout ce qu'on a dit que vous récupérez, c'est seulement qu'il n'y a pas de rave qui s'occupe de la tzedaka de la ville. Mais dans la ville où il y a un rave qui s'en occupe, comme ici, c'est sûr que vous ne pouvez pas récupérer cet argent, mis à part le fait que même les pauvres de votre ville comptent sur moi pour les nourrir. Donc cet argent, il reste dans cette caisse-là, c'est moi qui vais le distribuer. La Mishnah nous enseigne qu'on ne peut pas vendre un Bet Knesset qui appartenait à un public à une personne qui va l'utiliser que pour son utilisation personnelle, puisqu'il descend de statut de Kdusha. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Lui ont dit, Chachamim, si c'est comme ça, un Bet Knesset qui était avec un grand public, on n'aurait pas le droit de le vendre à un petit public. La Gemara dit, Behemet, il a raison, raison à Banane par rapport à Rabbi Meir. La Gemara nous dit, non, c'est pas vrai. Au début, entre une grande ville et une petite ville, c'est la même chose. Mais on passe pourquoi? Parce que de toutes les façons, on peut faire la Kdusha, on peut faire la lecture de la Torah. Alors que quand on passe de Rabim à Yachin, d'un public à un privé, il perd de la Kdusha, c'est pour ça que c'est interdit. La Gemara dit, ah, mais maître, il a raison, Rabbi Meir, qu'est-ce que vont dire à Banane? La Gemara nous dit, si c'est comme ça, alors on aurait dû faire attention. Si tu penses que Behemet, il garde une Kdusha, ce Beta Knesset, après être vendu, alors on aurait dû faire attention, même si on passait de 100 personnes à 50 personnes, puisqu'il y a Idan de Berovadamatomer. Non, on n'est pas d'accord avec lui fondamentalement. On pense qu'il n'y a plus aucune Kdusha dans le Beta Knesset après qu'il ait été vendu. La Mishnah nous enseigne qu'on ne peut pas vendre un Beta Knesset seulement si on a fait une condition qu'on pourrait le récupérer par Kavod pour le Beta Knesset. Rachamim nous dit qu'on peut le vendre sans aucune condition. Mais on n'a pas le droit de le vendre pour quatre choses, pour en faire un bain, pour être utilisé par un tanneur, pour en faire un mikvé et pour en faire un endroit où on allait laver des habits. Rabbi Judah nous dit qu'on peut le vendre sans aucune condition, puisqu'on le vend en tant que terrain, la personne qui l'achète fera avec ce terrain ce qu'il veut. Demande à Gemara. Comment est-ce que, d'après Rabbi Meir, tu as mis une condition? Comment est-ce que cette condition va permettre l'utilisation de cet endroit? Arrête, c'est défini comme rebut. Puisque si moi je mets une condition de récupérer, et toi tu m'as payé, et 10 ans plus tard je te dis bon, je veux récupérer mon terrain, ok, récupère ton terrain, moi je récupère mon argent. Mais au final, moi je t'ai donné de l'argent, et pendant toutes ces années, j'habitais chez toi, donc ça s'appelle rebut, ça s'appelle un prix avec intérêt. Dit la Gemara, il pense comme Rabbi Yehuda que tsadechad beribit, c'est-à-dire si au moment du prêt, c'est pas ficelé, que tu vas transgresser le ribit, il n'y a pas d'interdit de ribit, comme il est marqué dans une braïta. Une personne qui devait de l'argent à une autre personne et il lui a hypothéqué un terrain. Si c'est le propriétaire qui utilise ce terrain, tant mieux. Mais si c'est le prêteur qui utilise ce terrain, c'est ribit. Rabbi pense que c'est permis, puisque l'Agma nous explique, l'Agma nous ramène une histoire, pardon, il y avait Baitus Ben Zonan qui avait hypothéqué son terrain, bien que c'était, il avait hypothéqué, et ce terrain se trouvait chez Rabbi Lazar Ben Azaria, chez son prêteur. Donc on voit que c'est permis. Rabbi on dit, mais non, aucun rapport. Là-bas, c'est pas vrai. C'était pas chez le prêteur, c'était chez l'emprunteur, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Quelle est leur marloquette? La marloquette est justement de Tzadechad Beribit, c'est-à-dire, qui est-ce qui a dit qu'au final, il y aura Ribit? Peut-être que le prêteur, pardon, le prêteur, oui, va récupérer ce terrain, et donc ça n'a jamais été rébite. C'était bémet son droit le plus fondamental de récupérer ce terrain, donc ça n'est pas rébite. Donc c'est là qu'est la marloquette dans notre Braïta, et c'est comme ça que Rabbi Meir peut comprendre qu'on peut vendre quelque chose avec une condition d'annuler. Rava lui donne une autre explication, c'est pas Tzadechad Beribit, d'après tout le monde, Tzadechad Beribit c'est interdit. La question elle est différente. Ici, c'est si jamais j'ai mis une condition. Que tu me rendes le terrain, je te rends l'argent, mais attention, tu vas me rendre le terrain et tu vas payer la location du terrain. Est-ce que ça s'appelle rebit ou pas? Là, elle a marqué loquette en tant que Rabbi Yehuda. Chachamim nous disent qu'on ne peut le vendre pour ce qu'on veut, à condition qu'on ne l'utilisera pas pour quatre utilisations plus respectables. Et Rabbi Yehuda nous dit qu'on le vend en tant que terrain et celui qui l'a acheté peut faire ce qu'il veut. On dit la Gemara, on a le droit d'uriner dans les quatre amotes de l'endroit où on a prié. On dit la Gemara, évidemment, il y a marqué qu'on peut vendre un terrain. On peut vendre un Beta Knesset en tant que terrain, et l'acheteur peut en faire ce qu'il veut. Et même Rabbanan qui pense que c'est interdit de le faire, c'est parce que le Beta Knesset il a une Kdusha. Mais quelqu'un qui a prié, tu crois quoi? Que c'est parce qu'il a prié, alors ça va fixer la Kdusha. Rabbanan nous dit en vérité, c'est pas comme ça qu'il faut qu'il explique. Celui qui émite Palel, il doit, après avoir terminé de faire cette fila, attendre 4 amot et faire ses besoins. Celui qui a uriné, il doit attendre 4 amot et prier. Nous explique l'Agmar. Si je peux comprendre que celui qui a uriné, il doit attendre 4 amot et Mitpalel, pourquoi? Parce que il doit s'éloigner 4 amot de l'endroit où il a uriné. Mais Mitpalel, celui qui a été Mitpalel qui priait, il doit s'éloigner 4 amot, pourquoi? Si c'est comme ça, chaque endroit qui est Kadosh, chaque endroit où tu as prié, c'est Kadosh, alors tous les petits passages de Néarda devraient être Kadosh. La Gemara nous dit en vérité, non, c'est pas qu'on doit s'éloigner de l'endroit où il a uriné, c'est qu'on doit attendre le laps de temps. De 4 amot pour pouvoir prier. Je comprends plus maintenant. Je peux comprendre que celui qui a uriné doit attendre ce laps de temps parce qu'il y a encore des gouttes qui coulent et c'est pour ça qu'il doit attendre ce temps-là. Mais pourquoi est-ce que celui qui prie doit attendre ce laps de temps? Parce qu'en vérité, comme il est encore en train de chantonner la tfila, donc on lui dit attends un petit peu pour aller uriner. L'agma nous ramène, on a demandé la question à Rabbi Zakkaï, pourquoi est-ce que tu as eu une longue vie? Il leur a dit, j'ai jamais uriné dans les quatre amot ou de ma tfila, j'ai jamais surnommé qui que ce soit de mes amis et j'ai jamais annulé le kiddush du matin. Mais j'avais une mère qui était un peu âgée. Et une fois, elle a vendu même son couvre-chef pour m'acheter du vin pour le kiddush. L'agma nous raconte que quand elle est décédée, sa mère, elle lui a laissé 300 tonneaux de vin. Et quand lui est décédé, il a laissé 3000 tonneaux de vin à ses enfants. Alors, voilà, il l'a été une fois avec une ceinture en bois, enfin une planche de bois. Alors, Rav lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, parce que je n'avais pas d'argent pour le kiddush. Alors, j'ai donné ma ceinture en hypothèque. Et grâce à ça, j'ai pu acheter du vin pour le kiddush. Rav lui a fait une bracha. Je te souhaite que tu sois recouvert de soie. Quand Rabba a marié ses enfants. Alors, Rabba était un homme qui était. Ravuna était un homme petit. Quand Ravuna, pardon, a marié ses enfants, lui, il était petit, il s'est endormi, et ses filles et ses belles-filles sont venues, et elles ont laissé leurs manteaux et leurs habits en soie sur lui, jusqu'à qu'il était complètement couvert de soie. Donc la bracha s'est accomplie, puisqu'il était suffisamment riche pour entretenir ses filles et ses belles-filles. Quand Rav a entendu ça, il était énervé contre Rav. Il a dit, pourquoi quand je t'ai fait la bracha, tu m'as pas dit Vichen Lemar? Pourquoi tu m'as pas retourné la bracha? La Gemara nous raconte qu'on a demandé à Rabbi Elazar ben Shamua pourquoi est-ce que grâce à quoi tu as une longue vie. Il leur a dit parce que j'ai jamais fait utiliser le Beit HaKnesset comme un raccourci, j'ai jamais marché alors que les gens étaient assis par terre et j'ai jamais fait Birkat Kohanim sans faire de bracha. On a demandé à Rabbi Prela grâce à quoi tu as une longue vie. Il leur a dit j'ai jamais été le deuxième au Talmud Rashi, j'ai toujours été le premier, j'ai jamais fait de Birkat Amazon avant un Kohen, j'ai jamais mangé de viande sans avoir fait les dons qu'on devait faire au Kohen. La Gemara nous ramène que Rabbi Yitzhak pense qu'il est interdit de manger de la viande sans avoir fait les dons qu'on doit faire au Kohen, et tout celui qui mange de cette viande-là avant d'avoir fait les dons au Kohen est défini comme quelqu'un qui a mangé du Tevel, mais la Halakha n'est pas comme lui. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. La Gemara s'est posé la question, est-ce qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour en acheter un autre? Si Bediavad on l'a vendu, on peut, mais on est resté sur un Safek, est-ce que après avoir vendu, est-ce qu'on peut prendre une décision de vendre pour en acheter un autre? On a dit qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour étudier la Torah ou pour se marier. Celui qui vend un Sefer Torah dans le besoin ne verra jamais de bracha dans cette vente de Sefer Torah. L'obligation, la gdusha de la monnaie de la vente, c'est seulement quand il y a une vente, mais quand on a récolté de l'argent, on peut utiliser le reste de l'argent pour ce qu'on veut. Même pour Dursoussia, c'était pour avoir de quoi payer un chevalier pour la ville. Des gens qui sont en déplacement devront donner de la tzedaka dans la ville où ils sont en déplacement et récupérer cet argent pour l'âme dans les pauvres. Pour les pauvres de leur ville, sauf si dans cette ville où ils se trouvaient, le rav était celui qui s'occupait de cet argent. Donc cet argent ira dans la caisse de cette ville-là. On a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce qu'il reste une gdusha après la vente d'après Rabbi Meir? Oui. Et donc on a parlé de descendre de gdusha d'après Chachamim. Il ne reste aucune gdusha. D'après Rabbi Meir, on fait une vente de Beit HaKnesset seulement sous condition. D'après Chachamim, on n'a pas besoin de faire une condition. Mais on va faire attention à ce qu'il y ait quand même des utilisations qui ne soient pas trop respectables. Rabbi Yehuda lui pense que même on peut le vendre pour n'importe quoi à condition qu'on le vend en tant que terrain. Comment est-ce qu'on peut mettre une condition? Est-ce que ça ne serait pas un problème de ribit? On a donné deux explications. Tzad echad beribit, c'est moutard. Ou alors la condition de rendre le ribit annulerait l'interdit de ribit. On a l'interdit d'uriner dans les quatre amotes, dans le laps de temps des quatre amotes après la tefila. On a l'interdit d'aller prier dans le laps de temps de 4 amot après avoir uriné. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un Rukut Yamim? Plusieurs explications. Justement, il a fait attention à ne pas uriner quand il venait de faire cette fila. Le surnom qu'il ne donnait pas à ses amis. Le fait qu'il faisait très attention au Kiddush. On a vu aussi une autre raison de Rukut Yamim. Il n'a jamais fait de raccourci par un Beit HaKnesset. Jamais marché à côté de gens qui étaient assis par terre. Et Birkat Kohanim, toujours avec Bracha. Autre raison, parce qu'il était toujours le premier au Beit HaMidrash, il n'a jamais fait Zimoun avant le Kohen, et il n'a jamais mangé de viande avant que le Kohen ait reçu sa part. Le Daf est clair, Baruch HaShem, et à demain, Bezrat HaShem.